Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi podcast season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Depont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne-Françoise Joumeau. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre propre agence qui porte votre nom d'ailleurs. Votre agence, je cite, laquelle s'attache à concevoir et réaliser des bâtiments qui, participant d'un contexte, demeurent pourtant lisibles et autonomes. Le processus de différenciation de la matière, la recherche d'une tonalité singulière pour chaque projet, garantissent une architecture vivante et affirmée, dont l'identité visuelle jamais gratuite participe pleinement de l'usage. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre architecture, quelles ont été vos études?
Donc, quel est mon parcours? Mon parcours et ma jeunesse. Ma jeunesse, elle a démarré en pleine campagne, puisque j'étais d'une famille pas du tout d'architecte, et avec des parents pharmaciens qui s'étaient installés, jeunes pharmaciens, dans un petit village. Et donc, en fait, j'ai grandi dans les champs, dans les herbes folles et dans une assez grande liberté, en fait. Et d'autre part, en fait, du côté de mon père, beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres surtout. Et du côté de ma mère, des ingénieurs divers et variés. Donc on verra qu'effectivement, ça a pu déterminer certaines choses, en tout cas. Il me semble que en faisant des petits retours en arrière, des fois, on comprend certaines choses. C'est une campagne au sud de la Seine-et-Marne, hein, donc la Brie avec ses champs cultivés, ses élevages, mais beaucoup de champs. Et donc, beaucoup de balades à vélo à travers la nature, quoi. Et puis surtout, à l'époque, quand même, on était très, très libre de parcourir toutes ces petites routes de campagne seules et humer l'air, l'espace, la lumière. Et j'en garde vraiment un souvenir très fort. Et je crois que ce sentiment de liberté, je crois que pour moi, il est très important. Donc, mon envie d'architecture, elle est venue du fait d'un jour, en fait. Je le raconte assez souvent, mais en seconde, en fait, mon professeur de physique fait le tour des élèves et puis demande en fait à chacun ce qu'il veut faire. Et moi, j'étais un peu écartelée entre mon esprit assez posé, mathématique. Enfin, j'aimais bien toutes les sciences exactes. Et puis, d'autre part, je peignais, je dessinais, je collais, je faisais des tas de choses. Et du coup, ce professeur me dit, mais Mlle Joumeau, mais vous devriez être architecte, en fait. Et c'est là qu'en fait, j'ai pris conscience que ce métier pouvait peut-être rassembler en fait cette dualité que j'avais en moi entre des choses très exactes et responsables, on pourrait dire comme ça, et puis une autre chose qui est la création, la liberté de choisir en fait. Donc voilà, donc en fait je pense que mon parcours d'architecte a démarré là en fait, dans les années lycées. Voilà. Après les études, eh bien les études, il a fallu choisir un endroit pour étudier, donc étant basé aux années lycées à Fontainebleau, donc c'était Paris. Donc Paris, aller voir, à l'époque ça s'appelait des unités pédagogiques d'architecture. Il n'y avait pas encore des écoles d'architecture. Et donc en fait, ça venait juste de se déployer après la rupture Beaux-Arts en fait. Et donc moi je suis allée voir les Beaux-Arts, hein, qui étaient installés dans la voûte du Grand Palais d'une part, et puis d'autre part dans l'école des Beaux-Arts. Et puis en fait, je me suis inscrite donc à UP7, unité pédagogique numéro 7, qui est devenue après Paris La Seine, qui s'est installée rue de Seine et puis qui est devenue ce qu'on sait dans l'école construite par Borel. Et donc là-bas, c'était vraiment provisoire l'installation dans la voûte du Grand Palais. Et je me suis retrouvée aux Olympiades où UP7 s'est installée. Donc, mais avec un enseignement finalement très classique. Et du coup, je suis restée que 2 ans dans cette unité pédagogique. Et je suis ensuite allée à UP1, qui est devenue après Paris-Villemain, Oui. Et là, j'y retrouvais des personnes plus ancrées dans ce qui me semblait être une réalité et un savoir qu'on devait acquérir quand on était architecte, c'est-à-dire le logement social, l'engagement sociétal, etc. Et donc là, il y avait des enseignants qui venaient de l'AUA, de Bagnolet, qu'avaient construit dans la banlieue rouge, etc. Et donc, en fait, j'ai suivi cet enseignement jusqu'à, après avoir une certaine... un suivi aussi d'une spécialité qui était proposée par Perrot et Fabre, donc les architectes du Théâtre de la Ville et de bien d'autres théâtres en banlieue rouge. Et donc, en fait, une spécialité, effectivement, sur les lieux de spectacle. Quoi. Voilà. Donc voilà, en gros, les études, comment elles se sont déroulées.
Alors, vous avez commencé votre activité d'architecte de quelle manière?
Une fois que j'ai passé mon diplôme, donc c'était effectivement un lieu du spectacle, j'ai été suivie par plusieurs, évidemment, professeurs et architectes. Et en fait, je suis rentrée dans l'agence Jean-Pierre Buffy, qui venait de gagner les collines à la Défense, donc les bâtiments de part et d'autre de l'Arche de la Défense, qui se construisaient à l'époque. Et donc, je suis restée 6 ans à construire ces 120 000 mètres carrés avec l'équipe. Donc, toute jeune architecte, en fait, moi, j'ai basculé dans un truc incroyable pendant, ça n'a pas duré 6 ans, mais ça a dû durer 4 ans, où je suis partie. Eux, ils venaient de gagner le concours et moi, j'ai dessiné toutes les phases et j'ai fait le chantier, j'ai fait les suivis de levée de réserve et tout. Donc, j'ai tout vu, en fait. Et c'était extraordinaire parce que... j'ai eu un complément de formation l'exercice d'école absolument extraordinaire. J'aime beaucoup le chantier. En fait, j'aime beaucoup en fait la construction. Donc en fait, ça a été vraiment un panel incroyable. Puis surtout une équipe dynamique, une équipe en mouvement. Ça se faisait, l'arche se construisait. Il y avait des moyens incroyables. Nous, on avait des bâtiments plus petits, mais moins hauts, je veux dire, mais quand même importants. Donc,
oui, vous avez vu, vous participiez à cet élan et vous avez vu la Défense naître, en fait.
Voilà. Il y avait un vent incroyable là-bas. On prenait des coups de vent. Ça nous rafraîchissait la tête. C'était super. J'en ai un bon souvenir, en fait. Donc, voilà. Mais bon, parallèlement à ça, moi, je partageais ma vie avec Louis Payard, architecte. Et en fait, en parallèle, Louis était installé dans un atelier qu'on partageait avec des graphistes, des artistes. Et on faisait en parallèle, en fait, nos projets, nos concours, les concours ouverts, tout ce qu'on pouvait toucher, on le faisait aussi, quoi. Donc, en fait, ça a été... Moi, je travaillais évidemment en double. On travaillait toujours en double de quelque chose. Moi, quand je quittais l'agence, j'allais à l'atelier. Et puis, on se lançait sur tous les concours qui pouvaient, alors Europan, Butagaz à l'époque, Première Heure, enfin des trucs comme ça, enfin les concours jeunes architectes Ville de Paris et tout ça, enfin on les a un peu tous faits quoi. et donc voilà comment a démarré en fait l'exercice à la fois en indépendant et à la fois dans une grosse agence. Et puis après effectivement j'ai quitté l'agence de Jean-Pierre Buffy parce qu'un jour j'ai dit mais en fait, j'ai envie de décider moi, quoi. Donc, à un moment donné, c'était plus possible de travailler pour quelqu'un. Donc, effectivement, on a fondé l'agence avec Louis. Et puis après, tout de suite, est arrivée un peu l'aventure périphérique aussi. Voilà.
Alors, aujourd'hui, vous avez votre propre agence. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école? Est-ce que vous projetiez à l'époque déjà dans une pratique autonome? C'est un peu ça ma question.
Alors oui, parce qu'effectivement, on était déjà en binôme pour le faire. C'est-à-dire que moi, je travaillais en agence, entre guillemets, un peu pour assurer aussi, pour pouvoir effectivement avoir l'atelier à côté, pouvoir avoir des projets nous-mêmes, etc. Et donc, c'est ce qu'on faisait. Effectivement, sans le savoir, je ne le formalisais pas vraiment, en fait. Est-ce que je veux avoir une agence? Ce que je voulais, c'était arriver un jour à pratiquer, moi, et développer mon architecture, quoi. Donc, c'était complètement sous-tendu. Et puis, bon, à la fois, je n'ai jamais travaillé tout à fait seule. Quand j'évoquais cet atelier qu'on avait rue des Petites Écuries, en fait, qu'on partageait quand même avec des gens aussi qui sont devenus importants, comme Thomas Hirschhorn, avec Xavier Barral. On avait des personnes juste un tout petit peu au-dessus de nous qui nous fascinaient complètement, avec lesquelles on a fait des concours, on a fait inventer 89, on a répondu à des tas de trucs on associait d'autres spécialités à notre architecture, hein, puisque Louis a fait avec Hirschhorn, moi j'avais fait avec Barral. Enfin, on avait déjà, le collectif était déjà présent et c'est vrai qu'on rendait notre exercice plaisant. Et ça, c'est un thème aussi récurrent pour moi, c'est que je n'ai pas du tout envie de m'ennuyer dans mon métier. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas d'intérêt, je ne fais pas. C'est pour ça que les bâtiments, il n'y en a pas un qui ne me plaît pas, en fait. J'ai vraiment, vraiment toujours souhaité, on a toujours choisi le boulot qu'on ferait.
Oui, vous vous êtes donné le choix.
Oui.
Ouais. C'est un choix courageux.
Oui, parce que c'est parfois risqué. Et puis, c'est pas toujours facile, puisqu'effectivement, on sait bien qu'il faut vivre, il faut survivre, il faut avoir des moyens pour avoir des lieux de travail et tout ça. Mais c'est des choix qui ont été croisés. Mais en général, l'intérêt, c'était de faire un truc intéressant, quoi.
Et puis, finalement, vous êtes toujours retombé sur vos pattes, entre
guillemets. Oui, parce qu'en mettant l'énergie, puis créer un métier dynamique, quoi. Je citais l'expérience un petit peu périphérique, mais c'était aussi fait pour ça, quoi. C'était pour se bousculer, c'était des tirages au sort de qui ferait quoi. On se retrouvait à réinventer des règles du jeu dans le travail. Enfin, franchement, on a aussi testé, fait de la recherche, envisagé des nouvelles façons de partager le travail, puisqu'on était 6 quand même au départ. Et ça, c'est, on était tous super motivés. Et moi, je le suis toujours, en fait. Par contre, je n'ai pas répondu à votre question. Est-ce que j'ai réalisé mes...
Oui, pas vraiment.
Mais excusez-moi, je reviens dessus. Et j'ai envie de dire oui, en fait. Vraiment, les rêves et la façon d'imaginer ce qu'on a envie d'avoir une vie intéressante, oui, j'ai envie de dire oui. Mais dans lequel j'ai quand même rajouté une composante pour cela, à un moment donné de l'exercice. Parce qu'effectivement, on a un exercice qui est à la fois hyper contraint, responsable, des assurances. On est responsable de tellement de choses qu'il me fallait un champ vraiment libre. Et effectivement, il y a 10 ans, j'ai monté un lieu, en fait, pour présenter de l'art contemporain. Donc avec un lieu totalement libre et où je choisis ce que je veux.
Donc, vous avez toujours votre lieu qui est toujours actif.
Oui.
Et donc, vous allez chercher des artistes qui vous parlent ?
Oui, tout à fait. Oui. Et là, pareil, en fait, j'invite des artistes à exposer dans mon espace. Et effectivement, j'invite ce qui me plaît, quoi.
Ouais.
C'est quelque chose qui, effectivement, au départ, était conçu comme vraiment une bulle d'oxygène, complètement séparée de l'agence. Et en fait, c'est en train de complètement venir se mêler et s'imbriquer jusqu'à, effectivement, amener des artistes à travailler avec moi tout du long d'un chantier ou travailler avec moi ou mettre en pâture mes ouvrages pour qu'eux créent des œuvres dans leur processus de création. Voilà, ça fera d'ailleurs l'objet du prochain livre qui sortira sur l'agence.
Est-ce que vous pourriez tracer une histoire de vos projets ?
Effectivement, il y a eu... Alors, je reviens à nouveau sur Périphérique, ce groupe qu'on a monté à 6, donc 3 agences, 3 couples, qui avions fait chacun des petits projets, en fait. On avait chacun, donc il y avait Louis Payard et moi, il y avait David Trottin et Emmanuel Marin-Trottin, il y avait Dominique Jacob et Brendan McFarlane. Et en fait, on avait chacun fait des petites choses, et en fait, on n'avait qu'une envie, c'était de le montrer, en fait, de le médiatiser, de le rendre visible. Et c'est de là qu'est venu après aussi 36 modèles pour une maison et des actions autour de l'architecture données à voir aussi au grand public. On s'est aperçu que finalement, on pouvait peut-être proposer de l'architecture ensemble, tout en gardant nos structures indépendantes. Et en fait, on a tenté de s'inscrire à un concours et puis on l'a gagné. Donc on n'a pas attendu longtemps, c'est arrivé tout de suite. Et c'était donc la SMAC, donc salle de musique actuelle de Savigny-le-Temple, que finalement on a gagné comme un cadavre exquis en plus, puisque chacun, l'idée c'était que chacun reste vraiment dans son écriture, et donc ça a été un assemblage. Et donc en fait c'était cadavre exquis, chacun on a conçu, embauché quelqu'un qui nous rassemblait en fait, qui dessinait en fait ce que chacun lui devait. Puis après, on a fait des petits ajustements. On avait décidé, en fait, en gros, le principe du projet ensemble. Mais après, l'écriture architecturale, chacun a créé son input et son identité. Et donc, en fait, ce projet, en fait, il a été vraiment le start, le début, en fait, vraiment d'un exercice qui vraiment s'est déployé, quoi. Donc après, Jacob et McFerlin ont gagné Beaubourg, donc eux, ils sont sortis de la structure et ils n'ont pas poursuivi avec nous. Et après, on a donc continué faire des concours, le Centre National de la Danse. Enfin, on n'a pas tout gagné, bien sûr, mais on a participé donc avec l'énergie qu'on avait à quatre. On a participé quand même à des super concours, quoi. Donc, ça a permis, en fait, de travailler, de rechercher et de créer, effectivement, toutes sortes de projets. Alors, les projets, c'était... On partait de la culture, la musique. Nous, avec Louis, on avait l'occasion de faire le nouveau casino. De l'autre côté, David Emmanuel avait fait d'autres choses et tout. Et puis, en fait, dans les années 2000-2002, on a gagné 5 concours, dont un très, très gros qui nous a complètement permis de plus être des débutants, quoi. Donc, il y avait quand même 17 000 mètres carrés, il y avait 25 millions d'euros et tout à coup... On ne nous avait pas demandé les chiffres d'affaires qu'il fallait, etc. En tout cas, nous, ça nous a remis complètement... Ça nous a mis vraiment dans le game, quoi. Enfin, dans le jeu, en fait, de pouvoir enfin exprimer. Donc,
quel était ce concours ?
C'était Atrium, donc le bâtiment pour les licences, en fait, de Paris 6, sur le site de Jussieu, donc en extension du Gris d'Albert. Et donc ça, ça a déterminé, si je reprends dans la... L'ensemble des projets, ça a défini notre exercice lié à l'enseignement supérieur, parce qu'après, il y a quelques autres, l'enseignement supérieur. Puis après, en parallèle de ça aussi, il y a tout le champ du logement, qui est quelque chose aussi que... Donc, il y a un peu trois grandes thématiques comme ça à l'agence qui sont suivies. Il y a la culture, il y a l'enseignement supérieur, et la recherche, le tertiaire équipé, et puis d'autre part, le logement, parce qu'il y en a quand même beaucoup à faire, quoi.
Ouais. Donc, voilà. Et Atrium, vous aviez déjà réalisé quelque chose pour l'université, parce que c'est très dur. En marché public, l'université, c'est pas facile quand même de rentrer.
Mais non, Jussieu était un lieu un peu particulier. Hein. On était à l'époque contre Desmoulins, il y avait Jacob McFerlin contre nous, on était nous, et puis quel était le quatrième ? Ça m'échappe. Effectivement, nous, périphériques à l'époque, donc on a été retenus, et c'est le projet qui a été retenu, quoi. Donc... C'est ça la magie et je dirais l'histoire des projets. C'est à la fois une histoire qui va dans la poursuite d'une chronologie et tout. Et puis, dans la commande publique, c'est le hasard. C'est le hasard parce qu'on a fait des concours à Banyuls, à Belfort, à Brest. On a fait des concours partout en France. Et on a construit à Nancy, à Clermont-Ferrand, à Rennes, à Nantes, en Normandie. On a travaillé pour des projets à Rouen. L'histoire des projets, elle est là aussi en commande publique, c'est-à-dire qu'on fait des candidatures sur des compétences, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement l'équipe a les capacités à faire ce type de projet, donc on construit un dossier pour être retenu pour faire le concours. Et quand on est retenu, effectivement, on ne sait pas où on va être retenu. Donc c'est aussi un jeu de hasard, on envoie des capsules et puis il y a, de temps en temps, il y en a une qui sort et ça crée un projet en fait.
Donc, vous étiez en train d'arriver au logement.
Oui. Là, le logement, je dirais que, contrairement à la commande publique, on commence souvent avec du privé, parce qu'effectivement, souvent, on fait des réhabilitations pour des clients proches de nos connaissances, et puis après, ça augmente un peu, puis après, on fait quelques logements pour un office HLM, et puis après, on en fait plus, etc. Donc là, effectivement, l'autre jour, je calculais le nombre de logements que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que j'en ai... Mais je crois que ça va assez vite. Je ne sais pas... J'en ai jamais parlé avec d'autres architectes, mais j'en ai quand même livré 1000, quoi. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des projets qui sortent. C'est effectivement centaines de logements, 120 logements, 75 logements. Mais c'est vrai qu'on a démarré avec une maison individuelle, avec tout notre travail aussi sur les 36 modèles pour une maison qui ont fait des maisons individuelles, qui ont été assez iconiques, comme la maison Icône qu'on a fait à Montreuil avec l'agence, par exemple. Donc on a démarré tout petit. Et puis effectivement, maintenant, on a des morceaux de ville, finalement, dans nos bâtiments collectifs de logements.
Alors, quels seraient votre ou vos projets emblématiques ?
Ils le sont tous.
Mais je trouve, oui, qu'ils sont tous... Je les aime quand même tous, ces projets. Et puis, effectivement, ce travail sur l'identité de chacun, la matière qu'on a mis au point pour chacun, que ce soit les profils extrudés, cintrés, puis anodisés, accrochés sur le biopôle, ou la terre cuite émaillée sur le projet de la résidence sociale de Coalia, ou les panneaux d'aluminium anodisé de l'Atrium... avec ses grands et ses petits trous, ses grands trous pour effectivement cadrer le pourtour, parce que vraiment ce qu'on voyait du lieu où on était, c'était pas terrible. Du coup, en fait, on a resserré les vues pour les recadrer, tous ces projets, le projet de la médiathèque à Saint-Paul-de-la-Réunion, avec ses grands métals des poyons ondulants qui protègent du soleil, enfin, les plafonds de Michael Batory accrochés au plafond, qu'il a travaillé comme des grandes images qu'on a accrochées avec lui. Voilà, ils sont tous après emblématiques. Je reviendrai quand même sur Atrium parce que c'est c'est une petite urbanité. Donc en fait, on a un campus à la verticale avec des bâtiments ponts, on a des places sur lesquelles s'installent les étudiants pour travailler ou se retrouver. Et puis l'espace est travaillé vraiment comme un espace urbain couvert. Et c'est vrai qu'il sera emblématique. Il y a un lieu intérieur, il y a du passage. L'idée, c'était que les différents départements d'enseignement se voient, se croisent, puissent se retrouver, changer. C'était le début, en fait, de la notion de la série.
Sérendipité.
Ouais. Où effectivement, on commençait à parler des coworking, etc. Et ces lieux, en fait, qui traversent l'atrium, c'est des lieux pour ça, avec ces box de travail ouverts. Et donc, pour moi, il reste emblématique avec ce béton à l'intérieur, cette dentelle à l'extérieur qui va ouvrir vers le paysage plus lointain, le jardin des plantes et le campus. Donc, oui, celui-là, il reste peut-être. Puis bon, il reste quand même emblématique parce que. Il porte beaucoup de sens, comme ils le portent tous, beaucoup de sens, mais celui-là, quand même, il a une belle charge.
Vous vouliez en parler de... En citer un autre, peut-être, comme vous voulez.
Un autre que j'aime bien aussi, c'est le bâtiment de logement de Cardinet. Celui qui s'appelle Quintessence. Nexity l'a appelé Quintessence, mais on l'appelait Cardinet. C'était un des premiers bâtiments qui a été construit en fait, sur le parc Martin Luther King et qui, lui, porte une toiture complètement en panneaux de photovoltaïque, puisqu'effectivement, il fallait que les bâtiments soient autonomes, qu'ils assument en fait, leur production énergétique. Et du coup, il a pris une forme très particulière. Et en plus, c'est un bâtiment qu'on a amené à finalement pas suivre le règlement urbain. Mais souvent, c'est un peu comme ça qu'on travaille à l'agence. C'est-à-dire qu'on pousse un peu les règlements urbains qui sont un peu rigides, les fiches de l'eau qui nous imposent des choses. Et nous, on a carrément retourné le bâtiment pour laisser en plus le parc aller derrière le bâtiment. Donc, profiter à ceux qui étaient au deuxième rang, sinon on aurait bloqué tout. Et puis on a travaillé effectivement avec des notions environnementales qui étaient vraiment, qui devenaient très fortes dans la construction. Avec sa toiture justement qu'on a biaisée pour aller attraper le meilleur rapport en fait de captation des rayons solaires. Il a une forme un peu particulière et à la fois avec son côté arrondi pour laisser le parc passer au bâtiment derrière aussi, il est vraiment particulier et il est assez emblématique aussi de notre façon de travailler.
Oui, vous avez épousé le contexte.
Oui, on l'a épousé, on l'a tiré pour qu'il profite à plus, quoi, surtout à plus de bâtiments autour de nous, quoi. Mm-hmm.
Alors, comment est composée votre équipe ?
Alors l'équipe, elle est composée d'une personne qui m'accompagne depuis très longtemps maintenant, qui est rentrée il y a presque 25 ans maintenant, l'agence, et qui est toujours là. Donc Stéphane Razard, et puis une architecte aussi qui est très proche maintenant de la team en fait, que l'on compose tous les trois, Modern Mania, qui est là depuis une dizaine d'années. Et puis après, il y a des architectes qui développent les projets dont... selon en fait les besoins en fait qui passent d'un projet à l'autre. À la fois, on est quand même aussi dans une structuration assez horizontale, c'est-à-dire que moi j'invite quand même les personnes qui travaillent sur un projet à s'exprimer de tout ordre. Enfin, tout le monde a le droit de faire des propositions et j'essaie de garder cette structuration parce qu'en fait. À périphérique, dans les années périphériques, quand même, on passait son temps à expliquer à l'autre, à dépenser de l'énergie aussi, à transmettre les idées, mais à être toujours bousculée par d'autres qui venaient de l'autre agence et qui, du coup, pouvaient remettre en cause, etc. Et cette discussion, ce ping-pong de regards, ce passage au peigne fin de tous les regards qui amènent à choisir pour le projet quelque chose qui sera intéressant, j'essaie de le préserver, quoi. Donc, voilà. Et puis, on a aussi une assistante administrative. Hein, voilà.
Indispensable.
Qui nous aide bien aussi.
Ce sont les mamans d'agence.
Ça aide bien.
Vous avez été lauréate du prix de la femme architecte, je crois.
Oui.
Vous pouvez en parler ou...
En fait, je crois qu'il ne faut jamais imaginer qu'on fait moins bien que quelqu'un d'autre, quoi. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, moi, je crois que ce prix de la femme architecte, ça rend visible, effectivement, les femmes, parce que souvent, elles ont tendance à rester un peu dans l'ombre, hein, ou à finalement subir un contexte qui les amène à ça. J'avoue que moi, je n'ai jamais fonctionné de cette façon-là. J'ai toujours considéré que je faisais ce que j'avais à faire. Et effectivement, je pense que... qu'on soit homme ou femme, ça doit être fait. Et le fait que ce soit femme et que ce soit remarqué, pourquoi pas, c'est bien.
Ouais. Je cite à chaque fois Ingrid Taillandier, mais je trouve que quand elle est venue, ça a peut-être ouvert une porte vers justement cette réflexion dans le podcast. Mmh. Et elle disait assez justement que la profession manquait de modèles féminins. Mmh. Parce que, alors très concrètement, dans les écoles, il y a beaucoup de jeunes femmes. Et qu'en exercice, il y en a beaucoup, beaucoup moins.
En exercice, il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de femmes, en fait, à l'agence. Même parfois, j'ai du mal à recruter des garçons. Et donc, il y a beaucoup de femmes architectes qui sont formées. Mais après, qu'une femme dirige son agence, c'est autre chose, en fait. Parce qu'il y a des choix difficiles à faire, parfois, pour une femme. Puisqu'effectivement, souvent, la maternité, elle casse un peu le parcours de carrière. Donc, c'est des moments un peu difficiles pour maintenir un exercice de bout en bout. Parce qu'on sait quand même que... on est jeune architecte longtemps et il faut tenir dans le temps. Et donc, il faut laisser passer ces années un peu compliquées tout en exerçant pleinement et vivement en plus. Parce que la trente ou la quarantaine, c'est quand même les deux décennies les plus terribles au niveau investissement d'énergie. Quoi.
Ouais, c'est ça, c'est une question d'énergie.
Et donc, si en même temps on a des enfants, c'est pas facile pour une femme.
Je crois
pas facile du tout.
Vous parlez en connaissance de cause.
Ouais.
Bon. Mais ouais. Vous avez réussi à faire les deux.
Oui.
Brillamment.
Oui, oui. Mais bon, de temps en temps, on se prend des scouts, des enfants, en disant, oui, de toute façon, toi, avec le boulot qui t'intéresse. Donc voilà, bon. Voilà, mais c'est à la fois, je leur ai toujours dit que je préférais faire un boulot qui me passionnait et que j'espérais que pour eux, ce soit la même chose et que c'est ce que je tiendrais à ce qui se passe pour eux, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile quand même. C'est vrai que c'est difficile.
Oui.
Faut pas se leurrer, quoi. Et donc pour les femmes, pour maintenir une agence, pour continuer à être présente et tout, c'est vrai que c'est difficile.
Oui.
On nous demande quand même d'avoir facilement deux métiers en même temps, quoi. Enfin, c'est lourd.
Oui.
Mais bon.
C'est bon.
On y arrive.
Dans votre parcours, en fait, vous aviez votre agence avec Louis Paillard. Et après, vous avez pris des directions différentes.
Oui, on s'est séparés. Oui. C'était tout simplement une séparation de couple.
Ah oui, d'accord.
Et donc, Louis, en fait, on s'est séparés en 2002. Oui. Et donc, en fait, on s'est répartis les projets.
Ouais.
On a appris à peu près à l'équivalent. Et puis, voilà, quoi.
Et puis... Et vous avez continué.
Et moi, j'ai continué.
Que
oui. Oui. Non, mais on s'est répartis à l'égal. Et d'ailleurs, comme on a fait avec Périphérique quand on s'est arrêté il y a 5 ans, là, on s'est répartis nos projets. On a pris à poids égal. Et puis, comme on avait toujours tout coupé en deux, on continuait. Et avec Louis Paillard, c'était pareil. On avait toujours tout coupé en deux. Donc, avant de partir, on s'est coupé en deux. Voilà. Donc, voilà. Mais on reste néanmoins en bon terme, ce qui est plutôt sympa.
Ouais.
Mais effectivement, ça a été une séparation naturelle, quoi.
Ouais, d'accord.
Pour en expliquer, c'est vrai qu'avec Louis, on avait une pratique très différente.
Ouais.
Et d'ailleurs, lui, dans son agence, actuellement, il travaille qu'avec le privé. Il n'a plus de public du tout. Et il a un autre type d'exercice que le mien. Alors, pendant longtemps, ça s'est super bien assemblé dans notre travail. Je pense que nos différences, elles étaient... À périphérique, c'était comme ça, parce qu'on était tous très différents et on s'apportait tous des
complémentarités.
Des super complémentarités.
C'est de l'enrichissement.
Ouais, et avec lui, c'était comme ça. On assurait vraiment des couches différentes de l'exercice. Ouais. Et en fait, le package était quand même pas mal. Mais bon, ça s'est arrêté quand même.
Ouais. Partager les problèmes de la maison plus les problèmes du boulot, ça fait quand même beaucoup.
Ouais.
Dans des métiers comme ça, qui sont quand même des métiers très, très, très prenants en plus, il faut avoir une sacrée capacité de résilience. Je sais pas, mais...
À la fois, c'était un peu la fête, quoi, parce que c'est vrai que tout allait très vite, quoi.
Ouais.
Donc, c'était bien aussi. Pour tout ça, c'était bien aussi. Voilà. Après, ça cale parfois sur... les rythmes qui sont plus tout à fait pareils, voilà, c'est bon. La vie.
Oui, c'est la vie. Comment imaginez-vous le futur, le monde de demain?
Alors moi, j'ai en fait assez du mal à me projeter dans l'avenir. Je ne suis pas très dans la prospective. Par contre, moi, il y a des choses que je sais. Vraiment que j'aimerais que le monde de demain gâche moins d'énergie humaine, d'énergie dans son ensemble, gâche moins de matériaux. Je veux dire, on est dans un métier où on gâche beaucoup de matière, en fait. Et ça, je trouve ça lourd à porter. Commencer à trouver ça lourd à porter, en fait. Mais même si je sais que dans le métier, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, etc., c'est trop peu, je trouve. Et vraiment, moi, j'aimerais qu'on aille vers moins de gâchis dans le monde futur, proche même. Enfin, j'aimerais que... Et quand je parlais de gâchis, aussi d'énergie de nous tous, qu'on arrive à se poser, qu'on arrive à pas upgrader tout le monde pour finalement pas se servir de l'énergie qui ont été dépensée. Qu'on ne gâche pas la pensée, tous les êtres humains, enfin, tout ça. Je trouve qu'on est un monde qui gâche en trop, en fait. Et quand j'imagine le monde de demain, j'aimerais bien que, surtout qu'il y ait moins de gâchis, quoi. Et plus de respect, évidemment, de la nature. Mmh. Pour revenir à mes plaisirs d'enfance, où il y avait toutes sortes de fleurs le long des fossés et que ça poussait, que c'était pas géré, que voilà, qu'on pouvait les cueillir en bataille, on faisait de super bouquets. Mais cette liberté, il faut absolument qu'on arrive à la redonner aux générations futures, parce que franchement, je trouve qu'on leur crée un monde très dur, quoi, très cadré, dans des cases et tout. On n'a pas vécu ça et je trouve ça dur pour eux. Donc retrouver de la liberté, ce serait bien aussi.
Alors justement, les jeunes, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui?
Alors, moi, je prône forme et fonction. Hein. Donc, depuis finalement le début de mon architecture, où la forme, la fonction doit être là, on doit répondre à la fonction, à la technologie, etc. Mais il y a la forme, il y a la création, il y a la liberté. Et je dirais aux étudiants, sans jamais oublier, surtout ne jamais oublier de répondre à, néanmoins en partie à la règle, mais de rester inventif et créatif et de rester libre. De faire des propositions, de garder cet éclat de liberté qu'il faut qu'ils aient pour continuer à créer. À créer, ne pas avoir peur de proposer des formes, de proposer des idées, et voilà, et que ça transparaisse sur l'architecture.
Justement, je vous rejoins pas mal dans ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que la frugalité, qui est importante, ça rejoint l'histoire du gâchis, bride un peu l'imaginaire, a tendance à carrément même l'évacuer.
Oui. Enfin, je pense que il y a beaucoup d'architectes actuellement qui s'engouffrent dans ce traçage de l'architecture au carré, quoi, juste pour être frugal et pas faire de vagues et de montrer qu'on est simple, que je ne supporte pas ça.
J'en perds le plaisir.
Ah ouais, et là, j'en peux plus, en fait, de ça. Et je veux... Effectivement, je souhaite que les jeunes gardent un plaisir de la création, du mouvement, de la courbe, du plaisir et de la pétillance, de l'éclat, de tout ça peut s'opposer à quelque chose de plus rigoureux, etc. Mais qu'au moins, il y ait des mix, en fait. En fait, je pense que j'aime beaucoup aussi les mix. Je pense que en y repensant, en fait, la vie à travers aussi l'expérience périphérique, ça a été du mix, tout ça. On a mélangé des façons de penser, etc. Et on a créé des choses vivantes. Et il faut vraiment faut garder, en fait, ces éclats-là, quoi.
Mmh. Oui. Faire attention à la trop grande austérité.
Oui. Mmh.
Quel est vos projets actuellement à l'agence et votre actualité?
Alors, en ce moment, on a une construction en cours de 120 logements pour ICF La Sablière dans le 13e, sur un îlot qui s'appelle Fulton, qui a été coordonné par Brenac et Gonzalez et qui ont créé des formes un peu particulières dans lesquelles il a fallu s'inscrire et créer notre propre identité, ce qui n'a pas été simple au départ parce que c'était déjà très marqué. Donc, néanmoins, on est content d'avoir poursuivi notre travail sur la terre cuite, qui s'exprime de façon très douce, mais en relief. Ça sera livré l'été prochain. Et puis, sinon, on a un projet aussi à Rennes pour des logements à nouveau pour Archipel Habitat, qui là sont dans tous les curseurs très hauts de l'environnemental, puisqu'on est en plus et moins niveau 3, et tout géré en BIM aussi pour ce projet. Donc voilà, ça sera là, c'est en décalé de 6 mois, donc ça sera plutôt tout début de l'année prochaine. Et puis sinon, on a gagné une extension sur l'université d'Angers, on a gagné des logements pour le CROUS de Montpellier, et on attend des résultats de concours. Donc voilà, et je crois que j'en ai oublié un, mais oui, on a aussi un autre projet à Rennes, et ça c'est pour effectivement pour du privé, et aussi qui est dans une grande ZAC. Coordonné par Rachel Robert, dans lequel aussi il a fallu un petit peu
s'adapter
et à la fois les houspiller pour qu'ils acceptent que ça joue un peu, quoi, pour c'était un petit peu austère au départ. Donc voilà. Voilà, et puis on sortira aussi le troisième livre, en fait, petit livret que je réalise actuellement sur l'agence, depuis déjà deux, l'un consacré aux matières, l'autre consacré aux maquettes. Le prochain s'appellera Art, car j'ai demandé à 7 artistes, en fait, d'aller s'immerger dans un de mes bâtiments de leur choix et de créer des œuvres. Donc, en fait, ça sortira bientôt, donc au mois de mars. Et je créerai donc une exposition de ces œuvres créées pour l'occasion, pour le lancement du petit livre, à la galerie, puisque Progress Galerie est un lieu que je dirige depuis un bail, depuis 9 ans. Je vais réserver une petite place pour accueillir l'agence et cette présentation. Voilà.
Et on peut avoir les noms d'artistes, ou c'est encore un secret?
Oui, bien sûr. Donc, il y a Margaret Deering, qui est photographe, il y a Oscar Malessen, peintre, Gilles Elie, peintre, Benoît Géane, peintre, Vanessa Fanuel, Antoine Carbone, j'ai l'impression, et Guillaume Marie. Donc, voilà. Donc, chacun sont partis de peinture, sont partis dans la peinture ou ont créé des peintures qui sont des objets, puisque je m'aperçois que finalement les artistes que j'affectionne touchent aussi au volume et finissent par faire des espèces de maquettes. Enfin, c'est pas ce que j'appellerais, c'est pas tout à fait une maquette, ils appellent ça effectivement une sculpture ou un volume, mais effectivement.
Ou une installation aussi.
Ouais. Et pour finir, je parlerai peut-être aussi du travail que j'ai lancé avec l'artiste vidéaste Guillaume Géanin, que j'ai invité en fait à suivre le chantier de Fulton, justement, depuis le début jusqu'à l'entrée des habitants, donc depuis juin 2020. Donc ça va durer jusqu'en septembre 2022. Et donc c'est un artiste vidéaste que j'ai exposé à la galerie et qui a un travail vraiment très proche. Il utilise sa caméra comme un carnet de croquis et il est très proche de l'humain, des situations humaines, etc. Donc je lui ai demandé en fait de travailler dans le chantier et à la fois à l'extérieur, dans le quartier, les habitants, les gens qui voient construire le bâtiment, etc., qui s'expriment au fil de l'eau, etc. Donc voilà.
Bon, super.
En fait, je vais juste rajouter que le chantier, j'avais demandé ce travail sur le chantier parce que le chantier, on en parle très peu. Oui. Parce que c'est un moment sale, jamais fini, les gens comprennent rien. Donc, et en fait, ce que j'adorerais, c'est que ce film soit donné aux gens qui vont habiter dans le bâtiment et qui comprennent en fait tous les gens qui ont travaillé au quotidien pendant 2 ans, que ce soit les ingénieurs, les chefs compagnons, tous les corps de métier, les ingénieurs concepteurs, les bureaux d'études, les fournisseurs. Et en fait, et de pouvoir donner corps en fait à cette période-là.
Ah mais c'est passionnant.
Extrêmement émouvante. Quoi.
Ouais, enfin, moi, et puis en plus, même visuellement, le chantier, ça bouge sans arrêt. Mmh, mmh. Et il y a des choses extraordinaires.
Humainement aussi.
Hein. Et bien sûr. Ouais. Bah, c'est une belle idée. En effet, les photos de chantier sur Instagram, ça ne marche jamais. Ça rejoint ce que... Ouais. C'est dommage.
Oui, mais ça fait peur, en fait.
C'est un truc. C'est étonnant. Hein. Mais bravo. Un mot de la fin ?
Non, rien de...
Si, on peut effectivement rappeler que l'architecture, c'est pas que l'architecture de papier, c'est pas que sur le dessin, c'est pas que des paroles, c'est pas que des mises au point ou un imaginaire. C'est vraiment les pieds dans la boue, enfin, et puis un suivi quotidien du chantier. C'est vrai que nous, à l'agence, on tient absolument à suivre nos chantiers. On est très, très malheureux en ce moment sur nos 5 affaires. Il y en a un qu'on ne suit pas et on n'est pas bien du tout. On ne sait pas trop faire ça. C'est vraiment une période où on a l'impression d'accompagner notre bébé à avoir son existence et à s'ancrer dans le réel véritablement, puisqu'effectivement, on est toujours soumis à des propositions d'entreprise qui ne sont pas tout à fait celles qu'on a dessinées, même si, a priori, on dessine des choses qu'on sait construire. Mais quand même, donc nous, on aime bien suivre le chantier jusqu'au bout. Et puis, c'est tellement d'émotions spatiales. Ça me rappelle les premières fois où je suis rentrée dans les espaces que j'ai imaginés. C'est tellement le bonheur. Ça fait partie des bonheurs de la profession, ça.
Mmh. Bah, bravo.
Merci.
Votre parcours. Et merci pour ce beau témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas l'anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.